Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. L'aménagement se fait dans la soirée. La grand-mère dit : pour qu'il n'y ait plus de place, il faudrait peut-être acheter un lit à deux places. Frédéric crie : surtout pas ! Si vous faites ça, je couche à terre. Il est furieux de cette idée, parce que ça faciliterait ce qui se passe déjà. Il dit : d'ailleurs, je préférerais, c'est d'avoir ma chambre dans le grenier. La grand-mère lui dit : dans le grenier, comme les domestiques dans le temps, tu n'y penses pas. Eh bien, en pension. En pension, tu te figures que tu peux aller en pension? Non. Tu es très bien ici, avec ton frère. Et puis, vous surveillerez tous les deux mutuellement. N'est-ce pas, mon chéri? Eric lui dit : oui, grand-mère. Je suis l'aîné. Désormais, Eric est dans la chambre de Frédéric. Et il n'a plus à se cacher pour retrouver Frédéric. Lui va dans sa chambre le plus tard possible, fait ses devoirs au salon et la journée, il n'y va plus. Lorsqu'il rentre dans sa chambre le soir, son frère est déjà au lit. Il lui dit, « Tu pourrais venir plus tôt, tu m'empêches de dormir. » Frédéric lui dit, « N'avais qu'à t'endormir, sans m'attendre. » Eric lui dit, « Tu sais très bien que c'est impossible. » Il soulève ses draps et dit, « Allez, viens. Non, fous-moi la paix. Viens, je te dis. » Les jours passent. Le groupe Franblanc a accepté la proposition de projet que lui a donné Auguste Borsch par l'intermédiaire de son fils. Auguste reçoit la lettre lui disant qu'il accepte le projet et lui demande de venir au siège du groupe Franblanc pour signer le contrat. Auguste prévient son fils et lui dit de dans son bureau. Tu viendras avec moi signer le contrat. Bien, père. Et le jour dit, ils se rendent au siège. Le père, le fils et un expert des lois. Ils sont menés au bureau de Gilbert. Gilbert a à ses côtés de lui Judith, Harold, un avocat conseil, le directeur du service bâtiment et le directeur des recherches de projets et terrains à bâtir. Gilbert dit au père et au fils, venez vous asseoir et soyez les bienvenus. Ils vont s'asseoir devant le bureau. Les autres sont derrière le président. Il lui dit, j'ai bien étudié le projet. Il est intéressant et j'accepte. Je vous construis au centre de Paris, sur mes terrains, 10 résidences que je vous vends et que vous me payez sur 15 ans. Après 30 ans, les terrains qui sont à moi, il faudra que vous fassiez démolir vos immeubles pour que j'en fasse construire d'autres que je vous revendrai. Ces immeubles d'une durée de vie de 30 ans seront faits dans l'idée que vous nous avez demandé et construits avec des matériaux d'une durée de vie de 50 ans. Vous n'aurez que les immeubles dont vous serez propriétaire que pour 30 ans. Les terrains seront à nous et vous devez les démolir pour nous en faire construire d'autres pour 30 ans, que nous vous vendrons en payant sur 15 ans, etc., etc. Êtes-vous d'accord ? Auguste lui dit, « Oui, cela peut aller, merci. » Gilbert lui dit, « Avec cette politique, cela cache que nous sommes propriétaires de la totalité des terrains de la ville de Paris et de toutes les grandes villes de France et du monde. Mais les gens ne s'en aperçoivent pas puisque les immeubles bâtis sur ces terrains ne sont pas tous à nous, mais sont sans être à nous, comme les terrains, comme les contrats, je veux dire, sont tous comme les vôtres, ce qui fait que les propriétaires, en réalité, ne sont que locataires à vie et qu'ils sont obligés de nous donner des immeubles à construire tous les 30 ans. Avec ce système, notre groupe ne risque pas de manquer de travail et c'est bon aussi pour le consommateur. Jusqu'à différentes générations, puisqu'à les différentes générations, il y a des appartements qui conviennent au goût des gens et à leur façon de vivre. Il n'y a plus besoin de rénover et d'essayer de mettre à la page un appartement qui ne correspond plus à ce que souhaitent les nouvelles générations. Donc, plus de satisfaction et plus de facilité à louer. Ces logements seront toujours à la pointe du progrès. Voilà, nous allons signer, si vous le permettez. Ils se lèvent tous pour signer les contrats en 3 exemplaires. Les 2 experts des 2 groupes lisent les contrats et font signer. Judith est là, toujours aussi belle et superbe. Elle porte un tailleur rouge vif, ses cheveux roux qui ondulent, demi-longs, ses yeux bleus profonds. Elle est nue sous son tailleur. Elle a mis des collants noirs et a des boucles d'oreilles rouges. Elle rayonne de santé. Elle est heureuse que Gilbert soit le président et fait bien son travail. Elle aime en secret, mais ne lui toucherait pas le bout d'un cheveu ni ne lui dirait quoi que ce soit d'irrespectueux. Judith aime toujours les tout jeunes gens. Mais pour exercer ses pouvoirs, elle est obligée d'avoir des rapports avec des hommes plus mûrs et plus vieux. Pierre la remarque. Comment ne pas remarquer cette belle fille? Il la trouve délicieuse et aimerait bien faire connaissance. Elle, elle l'a remarqué et connaît son côté bizarre, cette famille où il se passe de drôles de choses, où ils se sont comporté d'une façon étrange chez Gilbert, puisqu'ils font affaire avec la Franc-Blanc et qu'ils vont fréquenter Gilbert et se dit qu'il faut les surveiller et les comprendre. Il ne faut pas que Gilbert risque quoi que ce soit avec, à cause d'eux. Après la signature, Gilbert leur dit « Ils sont passés au salon, boire un verre pour fêter cet accord. » Et ils suivent tous Gilbert. Rentrez, il les met dans une vaste pièce avec des vitrées, des portes-fenêtres qui donnent à une terrasse. Dans la pièce, il y a des tables pour les poissons et les amuse-gueules. Un petit coin salon pour ceux qui veulent se reposer. Des serveurs en pantalon noir et vestes blanches qui sont au bar et circulent. La pièce est éclairée de fleurs et plantes vertes. Gilbert tend une coupe de champagne à Auguste et lui dit à notre alliance. Tout le monde applaudit. Puis chacun boit et se disperse pour parler. Harold reste près de Gilbert et surveille ce qu'on lui dit et écoute ce qu'il dit en faisant attention pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Pierre voit arriver à lui la belle femme. La Judith, elle a le sourire, se dit « Tiens, elle a peut-être un faible pour moi. » On ne sait jamais. Elle lui dit « Félicitations. » Il lui dit « Je n'y suis pour rien, c'est mon père qui a tout fait. » Elle lui fait « Vous travaillez avec votre père ?» Il lui dit « Oui, je l'aide dans ses affaires. » Elle lui demande « Vous êtes marié, je crois ?»« Oui, ma femme est malade. » Et elle ne sort jamais. C'est très pénible, cela fait des années qu'elle est comme ça. Elle lui fait, Je comprends. Qu'a-t-elle ? Il lui répond. Elle a une maladie qui ne se guérit pas. Le sang. Elle lui dit. Je comprends. Et vous avez deux fils, je crois. Oui, deux chenapans. Ils ne s'entendent pas du tout. Elle lui dit. Ils sont tous comme ça. Votre vie ne va pas être bien drôle. Il lui dit. Oui, je me sens bien seul. Tout en étant entouré. C'est une solitude encore plus grande que si l'on était vraiment seul. Elle lui dit, je vous comprends. Vous êtes seul, vous aussi ? Oui, bien seul. Et des fois, j'aurais bien besoin de compagnie. Auguste les voit parler tous les deux et se dit que c'est bien ça. Si son fils pouvait avoir une charmante fille comme ça, ce serait très bien pour eux. Elle lui sourit gentiment. Il lui demande, vous accepteriez un rendez-vous à dîner dans un restaurant de la ville ? Elle lui dit, oui, quand ? Il lui dit, si vous voulez, demain soir ? Elle lui demande, nous donnons rendez-vous quand ? Où ? Il réfléchit, il lui dit, devant l'opéra, disons à 21h, ça vous va ? Elle lui dit, très bien. C'est parfait. Elle lui dit, je dois aller, hélas, voir d'autres invités. Mademoiselle Lapin, qui n'est pas à la retraite, parce qu'elle elle est le porte-bonheur de Judith, les a observés. Elle est habillée d'un tailleur moulant vert pâle, nu dessous, des chaussures de même couleur et a des cheveux jaunes vifs qui ondule demi-long, peinte comme une pute. Elle porte à la main un sac plastique pour y mettre des gâteaux pour son chien Kiki. Elle se dit, ah, c'est Judith. Encore un. Ça doit être un très gros client pour qu'elle se le paye. Autrement, elle l'aurait laissé aux copines. Quelle Judith alors. Le lendemain soir, Pierre attend devant l'opéra Judith. Il la voit venir à lui avec un tailleur noir. Elle est vraiment belle et élégante. Tailleur noir, nu dessous, jupe courte, sac et chaussures noirs, bas noirs aussi. Petit collier et boucle d'oreille en or discret. Elle va à lui avec le sourire. Elle lui dit, « Bonsoir, ça fait longtemps que vous m'attendiez ?» Il lui dit, « Non. » Elle lui dit, « J'ai eu une réunion qui a duré plus longtemps que prévu. Et après, je n'arrivais pas à m'échapper d'une de mes collaboratrices, une dénommée Mademoiselle Lapin. Brave fille, mais très curieuse, et qui cherche toujours à savoir qui voit qui. » Il lui dit, « Je vois. » Elle lui demande, « Nous allons où ?» Il lui dit, « Je connais un petit restaurant tranquille. » Où la cuisine est excellente. C'est rue d'Austerlitz. J'ai ma voiture là-bas. Elle lui dit, bien, allons-y. Et ils y vont. Il la fait rentrer dans sa voiture. Et entre lui-même. Puis, il la met en route. pendant qu'il conduit, lui dit « J'ai pas bien l'habitude de sortir comme ça. Enfin, avec une personne comme vous. » Elle lui dit « Ça m'étonne, un homme comme vous. » Il lui dit « Oh, vous savez, je suis pas un compagnon bien drôle. Et vous, avec toutes les ennuis que j'ai chez moi. » Elle lui fait « Je comprends. » Et se dit « Joue au martyr, à l'homme à plaindre. C'est sa façon de séduire. J'aime pas tellement ça. Moi, j'aime les hommes qui jouent les gagnants et non les pleurnichards. Si je n'avais pas surveillé à cause de Gilbert, je le laisserais tomber. » Paris la nuit, les rues sont sombres. Peu d'éclairage et les magasins des vitrines sont fermés avec des rideaux de fer à cause des émeutes qui risquent de se produire à tout bout de champ. Il y a peu de passants. Il y a beaucoup de chantiers fermés, grillagés et surveillés par des chiens de garde. Des projecteurs tournent en permanence pour les surveiller. Et l'on entend le bruit des chantiers car ils font les 3-8 pour aller plus vite. Les grues sont toutes allumées de la tête aux pieds. Elles remplacent à chaque coin de rue la tour Eiffel qui a été endommagée. Il reste encore quelques endroits pour se distraire et manger avec des gens huppés. Ces endroits sont chers et rares. Ils sont discrets pour éviter les émeutes. Enfin, ils arrivent. C'est dans une petite rue, transversale, tranquille. Il arrête sa voiture. Il sort de voiture et la fait sortir de voiture. Il amène dans un bistrot qui ne paye pas de mine. Ils entrent. C'est enfumé, décor bistrot 1950, il y a du monde, des gens bien. Les tables sont des tables de bistrot. Garçon vient vers eux. C'est un homme grand, mince, chantin, tablier bleu. Il leur demande « Vous avez réservé, messieurs, dames ?» Pierre lui dit « Oui, au nom de Pierre Bosch, une table pour 2 couverts. » L'homme regarde sur son ordinateur portable et lui dit « Oui, messieurs, veuillez me suivre. » Il les conduit, les mène à une table dans un coin de la pièce. Il leur demande « J'irai boire quelque chose ?» Pierre demande à Judith « J'irai boire quelque chose ?» Judith lui dit « Un petit vin blanc, merci. » Il dit au serveur « 2 vins blancs. » Les serveurs s'éloignent. Judith lui dit « J'adore cet endroit. Comment avez-vous connu ?» Moi qui connais des tas de coins, je ne le connaissais pas. Par hasard, au cours d'une affaire, un de mes clients, elle se dit, je suis sûr qu'il le connaît depuis très longtemps et que c'est son lieu de drague. Il doit mener toutes les filles ici. Il a peut-être une chambre pas bien loin. Nous verrons bien. Le serveur vient avec le vin blanc et les amuse-gueules. Il leur amène les cartes. Ils boivent une gorgée en silence. Et ils demandent « Vous vivez seul ?» Et ils demandent « Ai-je l'air d'une personne qui est mère de famille ?» Il lui sourit. « Le mariage ne vous a jamais tenté ?» Et lui dit « Non, jamais !» Demande « Pas d'aventure ?» Et lui dit « Ça ne vous regarde pas ? Quelle question ?» Il lui dit « Pardonnez-moi, je suis idiot. » Elle lui dit « Ce n'est rien. Et pensons à ce que nous allons choisir pour dîner. » Ils prennent leur carte. Après avoir choisi, ils font signe au serveur pour les commandes. « tout en mangeant, ils parlent de choses et d'autres. Ils sont de plus en plus pris par cette belle femme. Elle, elle se dit que ce serait peut-être pas désagréable. Bien sûr, elle aurait mieux aimé un de ses fils. Mais ce sera peut-être pour plus tard. Le repas est bon. Elle lui demande, à part votre travail, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Il lui dit, je n'aime pas mon travail. Elle lui fait, ah! Il lui dit, oui, c'est pas parce qu'on est un homme d'affaires que l'on doit aimer ce que l'on fait. Non, j'aide mon père parce que je ne peux pas faire autrement. C'est lui qui me fait vivre, alors. Moi, mon métier, c'est la biotech. Et j'aime la recherche. Elle lui dit, vous savez que nous avons une filiale dans ce domaine, ça vous intéresse? Il lui dit, je vous remercie, mais c'est trop tard. Je dois continuer avec mon père, alors. Elle se dit, un fils à papa, qui vit au crochet de sa famille, un bon à rien. Sa famille aussi, femme et enfant, doit vivre au crochet des grands-parents. Je vois la chose, il est débiteur de sa famille, il ne peut rien faire. C'est peut-être de ça que sa femme est malade. Il lui dit, tu ne dois pas être drôle de ne pas pouvoir faire ce dont on se sent fait. Il lui dit, oui, mais c'est la vie, et puis il y a plus pauvre et à plaindre. Et vous? Elle lui dit, moi je me sens très bien comme je suis. J'ai un métier qui me plaît, j'ai tout ce que je désire. Il lui dit, même du point de vue sentimental? Elle lui dit, je me débrouille pas mal. Dans ma profession, on fait de bonnes rencontres. Il lui dit, oui, mais pour le corps? Elle lui dit, c'est mon jardin secret. Personne ne le saura, même ceux qui y sont. Le corps doit rester secret. Après le repas, qui a été très bon, Pierre lui demande, que faisons-nous maintenant? Elle lui dit, vous me raccompagnez chez moi. Il lui dit, déjà? Oui, demain matin je travaille. Et oui, je suis comme vous. Il soupire et se dit, bien. Ils sortent du restaurant qui est encore plein de monde. Il se dit, encore une soirée ratée. Qu'est-ce qu'il y a ? Une fois dehors, la nuit, la fraîcheur, juste une fraîcheur de nuit, les surprennent. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.